Vous êtes bien à l'écoute de Fracture, c'était donc la Parisienne Libérée, une chanson sur le G7 qui nous a permis de clôturer cette première thématique sur donc le compte-rendu du contre-sommet du G7. Et je vais donc laisser la parole à Camille Exvi pour nous introduire le prochain sujet sur les bassines.
Oui, bah donc on embraye sur un autre thème d'actualité, comme tu l'as dit, à savoir la lutte autour des bassines. Ces derniers mois, vous avez peut-être vu fleurir les autocollants No Bassaran ou Bassine Non Merci un peu partout. Un collectif du même nom, Bassine Non Merci, s'organise pour faire annuler les différentes autorisations préfectorales à construire les dites bassines. Est-ce que, Camille, on va encore te faire parler un petit peu, tu peux nous dire ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est donc qu'une bassine, Camille ?
Eh ben, les bassines, ce sont des grandes piscines, des réserves d'eau géantes, donc des retenues d'eau qui sont construites sur des terres agricoles, avec des digues qui peuvent aller jusqu'à à peu près 10 mètres de haut, et évidemment une toile imperméable au fond pour retenir l'eau à l'intérieur. Alors, faut savoir qu'il y a deux types principaux de retenues d'eau pour l'irrigation. Il y a les retenues collinaires, qui sont considérées comme des barrages parce qu'elles collectent les eaux superficielles, les eaux de ruissellement d'un tout petit bassin versant, donc un endroit où toutes les eaux convergent vers le même point. Et elles les concentrent par gravité dans une petite retenue qui est, ou une grande retenue qui est localisée dans un point bas. Leur surface de captage est donc beaucoup plus importante que la surface du plan d'eau, de la retenue. Et il y a un second type de retenue d'eau qui est celui dit des bassines qui, elles, ne sont pas remplies par la pluie. Et c'est très important de retenir ce point-là. Elles ne sont pas remplies par la pluie, elles ne sont pas remplies par ruissellement, elles sont remplies par pompage dans des nappes superficielles ou dans des rivières. Et donc elles ne sont pas localisées spécialement dans des points bas et elles ne récoltent pas plus que leur superficie en eau de pluie, c'est-à-dire pas grand-chose à l'année. Ici dans la Vienne, elles vont être remplies particulièrement dans les nappes superficielles du Clain et de la Vienne. À propos de leur dimensionnement, ces bassines pourront stocker chacune jusqu'à 500 000 mètres cubes d'eau.
D'accord, et qui souhaite les construire ces bassines ?
Mais ici dans la Vienne, probablement comme partout ailleurs, les différents projets de bassines sont déposés par des coopératives de gestion des eaux qui sont composées par les gros exploitants agricoles du département. Donc leur but, c'est de pouvoir continuer à irriguer les cultures intensives de céréales l'été, par exemple le maïs. Très concrètement, pour le département de la Vienne, ça concerne 190 personnes, 190 exploitants qui souhaitent que ces bassines soient construites. Donc ça concerne 4% des agriculteurs du département. Et l'association Vienne Nature avait estimé qu'en moyenne, chaque bassine profitera à 3 ou 4 exploitations. Et d'ailleurs, si c'était le seul argument contre ces bassines, ce serait déjà suffisant pour remettre en cause leur bien fondé, le fait que ces constructions ne profitent qu'à très très peu de gens.
Ça peut nous poser la question de pourquoi déjà ces agriculteurs veulent construire ces retenues et surtout comment ils faisaient avant que ça existe.
Bah, ce qui se passe, c'est que, notamment ici, dans le bassin du Clain, il y a trop de pression sur les nappes, il y a trop de prélèvements par rapport aux ressources en eau disponibles, ce qui provoque tous les étés des diminutions dramatiques du niveau des rivières, notamment de celles du Clain, pour ce qui nous concerne. Si vous habitez Grand Poitiers, vous recevez tous les étés une lettre vous disant que le Clain a atteint son débit de crise, comme chaque année, c'était le cas cet été. Et donc l'eau qui nous tombe sur la tête, elle n'a pas augmenté en quantité. Par contre, les surfaces de céréales cultivées, qui sont gourmandes en eau, ont été décuplées pendant les 40-50 dernières années. Par exemple, pendant les 40 dernières années, pour le maïs, la surface irriguée dans la Vienne a été multipliée par 8. Donc voilà, face aux assèchements des nappes et des rivières qui sont observés ces dernières années, l'État a diminué de moitié les volumes d'eau qui sont octroyés aux irrigants dans la Vienne en période estivale. Donc on est passé de 33 millions de mètres cubes en 2003 à 17 millions de mètres cubes 16 ans plus tard, aujourd'hui. Donc ça a diminué de moitié. Et donc c'est pour ça que les gros exploitants souhaitent construire ces bassines, c'est pour contourner ces réglementations du prélèvement en eau. Et ils utilisent l'argument fallacieux qu'ils vont pouvoir pomper dans les nappes quand elles sont pleines en hiver pour charger leurs bassines, et comme ça ils pourront irriguer comme avant en été. Et donc c'est pour ça que les bassines sont nommées officiellement réserves de substitution pour l'irrigation agricole, parce que le volume prélevé l'hiver est censé se faire en substitution du volume prélevé l'été. C'est-à-dire qu'ils ne devraient théoriquement pas avoir l'autorisation de prélever l'été s'ils construisent leurs bassines et qu'ils les remplissent l'hiver. Si j'étais tout à fait de mauvaise foi, je me demanderais si une fois le tour de passe-passe effectué et les bassines remplies l'hiver, les exploitants ne continueraient pas par hasard, à prélever quand même leur volume autorisé l'été, arguant que leurs besoins ont augmenté, par exemple. Sécheresse oblige.
Mais alors tout ça, ça concerne combien de bassines et sur quel territoire ?
Alors toujours pour le département de la Vienne, il y avait 43 bassines qui étaient prévues d'ici 2022. On verra que ça a un tout petit peu diminué parce qu'il y a quelques arrêtés qui ont été annulés. Sur l'ancienne région Poitou-Charentes, ça concerne un peu moins de 90 bassines et tous ces chiffres ne comptent pas celles qui existent déjà, en Vendée notamment.
Est-ce qu'on a une idée du prix, de combien tout ça va coûter et par qui ça va être subventionné, financé ?
Alors, le coût des 4 projets dans la Vienne, c'est 72 millions d'euros. Ils sont subventionnés, comme vous vous en doutez, à 70% par des financements publics. Alors, il y a une part qui sera prise par la région Nouvelle-Aquitaine. Il y avait 10 millions qui devaient être attribués à ça. C'est encore en discussion. Et le reste des 70%, c'est l'Agence de l'eau Loire-Bretagne qui le financera. Et donc, il reste quelques dizaines de millions d'euros pour, qui seront payés par les sociétaires des coopératives, c'est-à-dire les irrigants eux-mêmes.
Ok, et est-ce qu'on peut parler des enjeux concrets derrière ces constructions, ces constructions ?
Le premier enjeu, le premier enjeu très concret, très local, c'est celui de l'artificialisation des terres. L'emprise totale des bassines de la Vienne, ça représente un peu plus de 400 hectares. Donc ils vont encore être artificialisés, bétonnés, imperméabilisés. Pour l'instant, il s'agit de terres agricoles. Alors je vous l'accorde, elles sont polluées, elles sont pleines de pesticides, mais ça reste de la terre. Et ça laisse encore un petit peu passer l'eau dans le sol, contrairement au béton. Donc un des enjeux, c'est ça. Est-ce qu'on veut encore laisser plus de 400 hectares de terre être artificialisés, ou est-ce qu'à la place, on préfère replanter des forêts ou des légumes sur ces zones ?
Et on pourrait voir aussi un autre enjeu, c'est celui de l'eau. Les pro-bassines disent que pomper l'eau en hiver permettrait aux rivières de couler l'été, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment ?
Et actuellement, le volume total qui est prélevé sur un an dans les nappes et les cours d'eau, c'est 37 millions de mètres cubes à l'année. Donc si les bassines sont construites, on estime que les prélèvements estivaux vont continuer, vont rester à 17-18 millions, mais que les volumes prélevés l'hiver vont être plus importants, de l'ordre de plus de 20 millions de mètres cubes. Et donc ça fera qu'il n'y aura aucune économie d'eau sur une année. Et en plus, il faut bien voir que pomper en hiver, ça ne va pas permettre un bon écoulement des rivières l'été. Une rivière, c'est pas juste de l'eau qui coule en surface dans une vallée. Une rivière, c'est la partie émergée d'une nappe d'eau qui est au même niveau, mais qui est prise dans la roche, qui est prise dans les grains de la roche. Et donc, ça s'écoule pas à l'air libre, ça s'écoule donc pas à la même vitesse. Et il faut savoir que le niveau d'une rivière diminue avec le niveau de sa nappe. Comme la recharge des nappes s'effectue l'hiver, si on les vide au moment où elles se rechargent, les rivières seront toujours autant à sec l'été.
Et on peut craindre qu'elles seront d'autant plus à sec que si les pompages continuent l'été.
D'autant qu'il y a des exemples, un exemple concret à ce sujet. C'est que, donc je vous ai dit qu'il y avait des bassines qui existaient déjà, notamment en Vendée. Et en 2017, certaines bassines n'ont pas pu être remplies complètement par les pompages. Le préfet de Vendée a donc autorisé des remplissages en période estivale. Donc on pompe l'hiver. Comme on n'a pas atteint les objectifs de remplissage fixés durant la saison hivernale, on cherche quand même à les atteindre au détriment des rivières le reste de l'année.
Mais alors, selon les exploitants, le but avoué de tout cela, c'est de pérenniser le système d'irrigation avec un climat qui va devenir toujours plus sec.
Ouais, et tu les cites là. Effectivement, c'est exactement ça. Ils veulent maintenir leur culture intensive à haut rendement. Pas de remise en cause du modèle existant en tête. Hein. Nous, on peut déjà faire une critique de ce modèle, rien que parce que les trois quarts des grains qui sont produits ici vont être exportés. Vers où ? Vers La Rochelle, et vers le port de La Rochelle, et ensuite envoyé à l'autre bout du monde pour nourrir des bêtes qui vont revenir plus tard, après quelques mois, sous forme de steak dans nos supermarchés, et même pas bio en plus. À mon avis, c'est le modèle complet qui est acheté, un modèle qui nécessite à la fois des millions de mètres cubes d'eau, des nitrates, des phosphates, des pesticides, pour nécessiter d'être productif, c'est absolument pas soutenable. Et au passage, les intrants eux-mêmes sont produits à l'autre bout du monde, grâce à un système qui repose sur l'extractivisme et qui va soumettre localement des populations à des conditions de travail terribles et à des désastres écologiques.
C'est quoi un intrant ?
Un intrant, c'est quelque chose qu'on rajoute dans un système, à savoir le champ. C'est juste quelque chose qu'on rajoute qui n'était pas sur place et qui n'est pas produit sur place.
Donc un fertilisant, un pesticide, ce genre de choses.
Ouais, okay. C'est ça. Dans intrant, je comprenais tout ce qui est ajouté pour que les cultures puissent se développer.
Si on récapitule, ça fait 40 bassines pour artificialiser 400 hectares de terre. De la privatisation des millions de mètres cubes d'eau tous les ans au profit de quelques-uns. Tout ça pour continuer une agriculture qui repose sur les intrants chimiques. Donc tout le monde a bien compris ce que c'était des intrants maintenant. Il y a bien des mouvements de résistance à cela, non ?
Bah oui, alors il y a plusieurs formes. Déjà depuis 2017, il y a une bataille juridique avec des associations qui sont mobilisées autour de l'environnement, qui ont saisi le tribunal administratif de Poitiers. Tout simplement, elles se sont dit que le plus simple, c'était d'attaquer les arrêtés préfectoraux qui autorisent 4 groupements d'irrigants à construire, à exploiter des réserves dans le Clain, dans le bassin du Clain, pardon. Et fin mai, le tribunal de Poitiers a annulé l'arrêté préfectoral qui autorisait 8 bassines sur le bassin de la Clouère. Et pour cause de non-respect de la réglementation sur l'eau. Donc c'est bien, le préfet ne respecte pas les règlements mis en place par l'échelon du dessus. Donc le volume de prélèvement était quand même surestimé de plus de 20%. Donc ça c'est une des petites nouvelles positives, c'est qu'il y a quelques recours quand même avant que le premier coup de pelle soit donné. Puis ensuite, il y a un autre moyen d'agir, hein, c'est d'aller sur le terrain et d'aller occuper ces zones. Un des moyens privilégiés d'empêcher les constructions, c'est de s'installer et d'empêcher les constructeurs de mettre le premier coup de pelle. Par exemple, à Mosée, sur le Mignon, une ZAD est montée depuis le 30 juin. Bon, elle tient bon, mais il faut dire qu'elle est sur un terrain privé, qui est prêté par un agriculteur, qui est contre le projet. Je ne sais pas si Daria, tu avais entendu parler d'un autre endroit où il y avait des...
Si, oui, il y a des projets de bassines aussi dans les Deux-Sèvres, plus au sud, notamment à Sainte-Soline, à côté de Lezé. Peut-être que certains connaissent les petites Aubuges, qui sont un lieu de concerts et de festivités. Il y a probablement apparemment, les travaux devraient commencer dans pas très longtemps. Donc, pour ceux qui sont intéressés sur la question des bassines dans le sud de Sèvres, allez traîner du côté du café du boulevard Hamel. Vous y trouverez de la documentation, des gens qui seront plus à même de vous renseigner sur l'actualité à venir. Et sachant que là, tu parlais de la ZAD de Mosée sur le Mignon, on avait reçu en juin ou juillet la dernière émission, qui avait été assez compliquée à mettre en œuvre, mais on avait fait une interview téléphonique d'un des acteurs de cette ZAD à Mosée. Donc vous pourrez retrouver l'interview là pour la partie audible sur l'émission, la dernière émission de l'année dernière. Et on les invitera très certainement sur une prochaine émission pour faire une émission spéciale sur effectivement les projets de lutte contre les bassines qu'on peut trouver en Deux-Sèvres ou dans la Vienne à l'heure actuelle.
Eh bien, merci Camille pour cet éclairage. Merci Daria aussi pour le complément d'information. Et on va vous laisser pour une pause musicale. Qu'est-ce qu'on va passer ?
Eh bien, on va s'écouter Rue de Paname,
c'est
ça ?
Oui, c'est ça.
On n'aurait pas des trentenaires sur leur tour, là, un petit peu, qui se rappellent leur jeunesse. Donc, Rue de Paname, c'est quoi ? C'est la ruquette ou un truc du genre ?
Les ogres de Barbac.
Ah, pardon, je les confonds toujours. Ouais. Donc, les ogres de Barbac.
Oui.
Bord de l'eau. Je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là deux, trois femmes qui faisaient le tapin. Moi, j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. Les gens de bon quartier, les touristes, les vieillards aiment bien se promener le long des grands boulevards. Ils achètent des souvenirs, des tours Eiffel en plastique. Les saltimbanques les font rire, mais faudrait qu'on leur explique qu'il y a de la merde partout, de la drogue et surtout des jeunes en galère qui trafiquent la misère. Ouais, je dois bien avouer que j'y passe toutes mes journées. C'est que parfois Paris, c'est la joie et la folie. Croyez-moi bientôt, les flics auront du boulot, car tous les vagabonds parlent de révolution. Un jour toutes nos chansons, ouais, vous désarmeront. Il n'y aura plus que la folie, la joie et l'anarchie. la joie et l'anarchie, la joie dans Paris.